Troisième partie. C'est le lendemain que je fis connaissance avec Paris. J'étais en route de bon matin. Les balayeurs et les balayeuses rentraient dans leurs taudis, et les laitières, avec leurs cruches de fer blanc, venaient s'asseoir sous les portes. Il pouvait être au plus 6 heures. Le vieux quartier latin, encaissé dans ses rues profondes et tortueuses, pleines d'ombre en été, de brouillard et d'humidité en hiver, ressemblait au quartier latin d'aujourd'hui à peu près comme une forêt vierge d'Amérique peut ressembler au jardin des Tuileries. Il en reste 3 ou 4 édifices, les thermes de Julien, l'hôtel de Cluny, la Sorbonne, qui vous représentent de vieux nids autrefois perdus au fond des bois et maintenant raclés, nettoyés, étalés au grand soleil. C'est une désolation pour ceux qui vécurent jadis dans ce quartier d'y retourner aujourd'hui. Ces larges boulevards, ces squares, cette fontaine de bronze en face du nouveau pont Saint-Michel, leur rit au nez. Tout semble leur dire « Tu n'es plus de notre époque, tes amis n'existent plus. Professeurs, étudiants, grisettes, porteurs d'eau, charbonniers, rôtisseurs de marrons, fruitières poussant leurs charrettes, marchands d'habits chargés de guenilles, tous ont défilé, va les rejoindre, requies cant in pace. Oh, mon vieux quartier latin, où j'ai passé 5 ans de ma belle jeunesse. Vieux toit où la pluie tremblotait en décembre au bord des créneaux mouillés, où le soleil s'allongeait au printemps en grandes bandes dorées le long des murs décrépits. Sombre défilé souterrain allant du cloître Saint-Benoît à la rue Sorbonne, de la rue Sorbonne à la rue de la Harpe, respectable bouquiniste, honnête marchand d'antiquaille, digne chiffonnier rodant, la haute au dos sur des tas d'ordures, jolie fille trottinant au bras de leur étudiant, pierreuse et débardeur du carnaval courant sous les flocons de neige, silhouette dansante aux vitres du Prado, toute frémissante de la valse du fifre de la trompette. « Oh, mon vieux quartier latin, qu'es-tu devenu ?» Je sais bien que ces regrets sont absurdes. Je sais que de siècle en siècle, la peste ou le choléra venait se promener dans ces boyaux, accrochant à droite et à gauche tout ce qui leur tombait sous la griffe. Je sais que la misère aussi venait s'y embusquer les jours d'émeute, hâve minable, l'antique mousquet au poing et la chemise débraillée, fusillant de carrefour en carrefour la ligne et la garde nationale qui voulaient y pénétrer, et que maintenant, grâce à ces larges trouées, on peut balayer toutes les embuscades de la gare de l'Est au fond de la barrière Saint-Jacques. Je sais tout cela, et je trouve que la civilisation a fait un grand pas dans cette direction, que l'air, le soleil sont de bonnes choses, que la santé et le bien-être avaient le droit d'entrer dans ces recoins où pendait encore l'étoile d'araignée du XVIe siècle. Oui, mais que voulez-vous? On était si bien chez soi, dans ces retraites obscures, qu'il vous semble encore, après 30 ans, qu'on vous a volé votre âme, votre vie, votre jeunesse, qu'on a balayé jusqu'à vos souvenirs en les supprimant. Et puis ces grandes avenues, si claires, si lumineuses, savez-vous qu'elles me produisent auprès de ruelles d'autrefois? L'effet d'une belle épreuve de nos journaux illustrés, bien corrects et bien nets, auprès de quelques vieilles gravures de Callio ou de Rembrandt, imprimées sur du papier jaune, enfumé, c'est vrai, mais plein d'un sentiment étrange qui vous pénètre et vous charme. Vous me comprenez? Je vous dis franchement mon sentiment sur le vieux et le nouveau Paris. Que les nouvelles générations admirent les files d'arcades, les larges boulevards, elles ont raison sans doute. Le bon sens, l'hygiène sont pour elles. Le sentiment est peut-être de notre côté. Quoi qu'il en soit, je logeais chez M. Martin, dans une toute petite chambre sous les toits, où je grimpais 4 à 4 comme un écureuil. De là-haut, accoudé sur ma fenêtre, je voyais un corps de garde de municipaux, envoyant d'heure en heure quelques hommes relever les postes voisins, et la vieille rue des Grès, bordée de petites librairies jusqu'au coin de la place Saint-Michel, les gens du quartier allant et venant, stationnant devant les vitrines, feuilletant un volume, se remettant en marche. Ce spectacle me plaisait. J'étais chez moi, comme dans ma cellule de Sainte-Suzanne, avec plus de distraction et de liberté, voilà tout. Et sur les 8 heures, mes instituts ou bien mes 5 codes sous le bras, j'allais au cours de M. Ducoroy, qui se trouvait dans le nouvel amphithéâtre rue Sorbonne, ou bien celui de M. Duranton, au fond de la cour sombre de l'école, place du Panthéon. À dire vrai, M. Poirier, en nous parlant sans cesse, en rhétorique, des luttes glorieuses du Pnyx et du Forum, des promenades savantes de l'Académie et du lycée, m'avait rendu difficile, et le bon père Duranton, avec sa grosse tête grise ébouriffée et son énorme tabatière posée sur la chaire, commentant d'une façon fort diffuse un article du Code civil, me paraissait au-dessous de son rôle. J'aurais mieux aimé entendre Cicéro ou Quintilien, mais, comme dit le proverbe, faute de grive, on mange des merles, surtout quand les merles ont le droit de vous interroger aux examens sur le goût que vous leur trouvez. M. Ducouroy, lui, et ses lunettes d'or au bout du nez, nous expliquaient mot à mot les instituts de Justinien, en attachant à chaque virgule une importance capitale. Il me produisait l'effet d'une bonne vieille montrant l'ABC à ses enfants. Mais comme il était à ce qu'on disait fort sévère aux examens, et que sa manière de voir sur chaque virgule lui paraissait sacrée, il fallait bien en tenir note pour ne pas l'oublier au moment venu. En sortant de là, je courais déjeuner chez M. Aubert au cloître Saint-Benoît avec 4 ou 5 camarades. Périgaud, compère, le duc, tous bons enfants, fort assidus au cours et dont j'avais fait ma société. Les 3 salles du restaurant Aubert, garnies de petites tables en marbre et vaguement éclairées par quelques fenêtres, prenant jour sur la cour du cloître, offraient un coup d'œil réjouissant. C'est là que les beefsteaks, les rosbifs, les fricandeaux, les triangles de fromage, les salades de cresson ou de laitue et la demi-bouteille de vin s'expédiaient à la douzaine. Il fallait voir tous ces mentons galoper. Il fallait entendre ce cliquetis de verre et de fourchette et les cris « Garçon, du pain !»« Garçon, une pomme frite !»« Garçon, une raie au beurre noir !»« Garçon, 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 garçon !» Cela partait de tous les coins comme un feu roulant. Et le père Aubert riait à son comptoir. Il se barbouillait le nez de bonne prise en pensant « Ça marche, ça roule, ça va bien !» En a-t-il vendu des comestibles de toutes sortes au fond de cette vieille cour? Il n'y a pas de restaurant à Paris qui ait jamais joui d'une clientèle aussi dévorante que la sienne. Tous des gaillards de 18 à 23 ans et qui se renouvelaient d'année en année par fournée à mesure que leurs estomacs devenaient plus difficiles. Tout cela discutait. On ne s'écoutait pas d'une table à l'autre. On avait bien affaire de s'entendre à la sienne. C'est ce que j'ai vu de plus joyeux dans ma vie. J'en ris encore, je crois encore y être. Mais ce bon temps est passé. D'autres viendront. Ils auront bon appétit, leurs 32 dents croqueront des noix et des noisettes à faire frémir vos vieux chicots. Et vous pourrez dire à votre tour, en les regardant tout mélancoliques, « Fui, fuisti, fui mousse. » Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes. Amen. Tel était le restaurant Aubert en l'an 1844. Notre repas terminé, nous allions en route, dandinant au jardin du Luxembourg, quand il faisait beau, les mains dans les poches, le bolivar sur l'oreille, causant de tout, ergotant sur tout et content de nous-mêmes. Les jours de pluie, nous allions à la Sorbonne faire notre digestion en écoutant Jules Simon s'enthousiasmer sur l'école alexandrine, Saint-Marc Girardin disserter à propos de poésie avec un esprit et un bon sens intarissables, ou bien M. Géruzez nous lire des passages de Rabelais sur les mérites des andouilles et de la dive bouteille. Ce genre de littérature nous faisait rire. Le bon monsieur Jérusalem riait avec nous. Un courant électrique s'établissait dans la salle et les applaudissements éclataient. Vers la même époque, d'autres émotions plus intimes m'agitaient. L'hiver était passé, le souvenir de Sainte-Suzanne et de nos promenades à la maison forestière des Mésanges avec les messieurs et les demoiselles de la ville me revenait avec attendrissement, et souvent il m'arrivait de m'écrier « Ah, le bon temps ! Ah, que Denise Colson était jolie avec ses petites manches à gigot, et comme elle chantait bien !» Si tu le vois, dis-lui que je l'adore, rappelle-lui qu'il m'a donné sa foi. Ses pensées me troublaient. Je les exprimais avec mon cornet à piston, en jouant l'air de Guido et Ginevra, ou d'autres motifs aussi tendres. Mes voisins en étaient fort ennuyés, mais que voulez-vous? Un âge arrive où le cœur a besoin de s'épancher, d'une façon quelconque, et je me trouvais dans cette période intéressante. Or, sur le même palier que moi, demeurait un vieux bonhomme appelé Bolivar, sans doute parce qu'il portait le grand chapeau du libérateur de l'Amérique espagnole. Ce vieux, la barbiche grise en pointe, les joues creuses, les moustaches retroussées, le teint légèrement vineux et son large feutre sur l'oreille, m'inspirait une sorte de respect. Je le considérais comme un de ces peintres décorateurs qui ne manquent pas de talent, mais qui sont forcés de faire du métier pour vivre. Il avait une vieille femme maladive et une jeune fille de 16 à 17 ans, brune, les cheveux naturellement frisés, la figure ronde, hâlée par le grand air, le front petit mais bien fait, avec de grands yeux noirs, tout pleins d'une langueur et d'une tendresse inexprimables. Elle était vêtue d'une robe de couleur vive, un collier de corail entourait son joli cou brun, sa taille était fine, ses pieds étaient mignons, enfin on ne pouvait voir de plus jolie créature. Toute la famille partait le matin de bonne heure, le vieux en avant, une sorte de tente à quatre piquets sur l'épaule, la femme un grand panier au bras, recouvert de son couvercle d'osier, et la petite avec une corbeille, alors, Dieu sait tout, et ne revenant qu'à la nuit. Je les avais rencontrés quelquefois dans l'escalier, et la petite, levant la tête, m'avait jeté un regard d'une douceur infinie. Aussi, rentré dans ma chambre, il m'arrivait de rester des heures assis, les deux coudes sur ma table, la tête entre les mains, à rêver à cette jeune fille, à son regard, qui m'agitait jusqu'au fond de l'âme. Les choses en étaient là depuis le printemps, et chaque soir, rentrant du cabinet Leclerc rue Sorbonne vers 10 heures, avant de me coucher, je songeais à la petite. La famille rentrait à peu près en même temps que moi, et tout aussitôt, en bouchant mon cornet à piston, j'exécutais jusqu'à la dernière note mon répertoire amoureux, ma fenêtre ouverte sur la cour, et les yeux fixés sur la lucarne de mes voisins, où je voyais apparaître l'ombre de la petite, toute pensive, appuyée sur le rebord du toit. La lune venant à monter au-dessus des hauts pignons noirs du quartier, et se promenant dans le ciel à travers les nuages, nous voyait attentifs l'un à l'autre. Sans nous être dit un mot, nous connaissions nos plus intimes pensées. « Allons, Marguerite, allons !» disait enfin la vieille Jacqueline. « Éteins la lampe, il est temps de te reposer !» Aussitôt, la jolie figure se retirait. Je lançais encore quelques notes plaintives et tremblotantes, puis voyant la lumière disparaître, je me couchais et je m'endormais au milieu des rêves les plus doux. Mais alors arrivait une chose étrange. À peine étais-je endormi, vers minuit quelquefois plus tard, que des éclats de rire bizarres retentissaient au-dessus de moi. Des voix qui se parlaient et se répondaient sur un ton grave ou comique, avec des exclamations, des apostrophes, des plaintes affectées, un persiflage impossible. Ces cris m'éveillaient, je dressais l'oreille en me demandant « Mais qui diable loge là-haut dans le grenier? Qui peut se livrer à de pareils ébats? C'est un fou pour sûr, car ces cris, ces « oh, 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 ces « hi, hi, hi » ne sont pas naturels. Il se passe là-haut quelque chose d'extraordinaire. » Et une nuit, vers 2 heures du matin, le tintamarre allant crescendo, si bien qu'on aurait dit que tous les chats du quartier s'étaient donné rendez-vous dans les gouttières, la curiosité me prit d'y aller voir. Je me levai donc, je passai mon pantalon et je sortis pieds nus sur le palier. C'était en juin, il faisait chaud, de sorte que je n'eus pas besoin de m'habiller, mais par précaution, ne sachant pas quelle rencontre j'allais faire, je m'armai d'une bonne trique, un souvenir du pays. J'avais remarqué sur le palier du 5e une courte échelle entrant dans la soupente du grenier. Pendant le jour, elle était appliquée contre le mur, mais à 7 heures, au clair de lune donnant par une vitre en tabatière, je vis l'échelle debout dans l'ouverture du plafond, et naturellement, avant de monter, je prêtai l'oreille. Tout s'était tu dans cet instant. En bas, tout se taisait aussi. L'hôtel dormait jusque dans la loge du concierge. N'entendant plus rien, au bout d'une demi-minute, j'allais rentrer, lorsque le sabbat recommença par un éclat de rire insensé. « Hé, la voilà morte, hi, 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 ma Colombine est morte, c'est moi qui l'ai tuée. Voyons, Colombine, voyons, pas de mauvaise plaisanterie. Réveille-toi, Colombine, chère petite Colombine, ma joie et mes amours. Elle ne bouge pas. Oh, Dieu, qu'est-ce que je vais devenir si la garde arrive? La voilà, des talons, boum. Halte, oh, je suis pris, pincé. Qui êtes-vous? C'est moi. Nous tenons le bandit, alors qu'on lui mette les menottes. Oh, mes pauvres parents, honorable famille des pantalons, oh, mon respectable père, oh, oh, oh. Que diriez-vous si vous voyiez votre indigne fils, l'espoir de vos cheveux blancs aller à la potence? Oh, oh, crac, oh, me voilà parti. Oh, les cornichons qui me plaignent. Oh, j'en ai mis 2 par terre. Arrêtez, 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 ah oui, oh, je t'en moque, j'ai pris de l'air. Arrêtez, arrêtez, et ainsi de suite. J'avais grimpé à l'échelle, et le nez à ras du plancher, je regardais dans le grenier. Et je voyais M. Bolivar, entouré d'une 20aine de marionnettes, qu'il faisait manœuvrer au moyen de ficelles, sur un petit théâtre en bois peint où brillait une lanterne. Il me tournait le dos. C'était étrange de voir ces poupées aller venir se saluer, s'agiter, disparaître dans l'ombre, et surtout d'entendre les éclats de rire, les propos décousus du vieux guignol dans ce grenier silencieux. J'étais là depuis quelque temps. M. Bolivar, s'étant retourné plusieurs fois pour sortir ses poupées, m'avait montré son profil. Je ne conservais plus aucun doute sur son identité, et j'allais redescendre tout doucement, quand quelques grains de poussière s'élevant du plancher m'entrèrent dans le nez et me forcèrent d'éternuer. C'est alors qu'il aurait fallu voir le père Bolivar se retourner et regarder dans la nuit de mon côté en s'interrompant de rire. Malgré les ténèbres, je voyais ses yeux s'arrondir. Je faisais tous mes efforts pour m'empêcher d'éternuer, mais impossible. Cela me revenait par secousses et lui, à chaque fois, poussait un long soupir. Il ne disait pas un mot, ni moi non plus, et on aurait entendu trotter une souris tant le silence était profond. À la fin, recueillant tout son courage, il demanda « Qui est là ?» Et grimpant de mon échelle dans la soupente, je lui répondis « C'est moi, monsieur Bolivar. » Ce mot de Bolivar le fit tressaillir. Qui pouvait le reconnaître dans ce grenier sombre à 2 heures du matin? Cela ne lui paraissait pas naturel. Et dans l'obscurité, tout paraissant grandir démesurément, à chaque échelon que je montais, il reculait d'un pas derrière son théâtre et finit par me demander « Mais qui vous ?» d'une voix chevrotante et cassée. Décidément, ce n'était pas le fameux Bolivar de Caracas. Il me prenait peut-être pour le garde à la recherche de Polichinelle. Mais moi, lui répondis-je, le cornet à piston. Le cornet à piston, fit-il, comme cherchant dans ses souvenirs. Oui, vous savez bien, le voisin qui joue, pitié de grâce. Alors il reprit haleine et se mit à bégayer d'un accent de satisfaction. Ah, c'est vous! Ah, mon cher voisin, c'est vous! Je vous reconnaissais pas, mais au fait, de votre charme, vous devez m'entendre. Vous comprenez mon émotion. La nuit, tous les chats sont gris. Oh, tant mieux que ce soit vous. À chaque parole, il devenait plus gai. Il se prit même à rire tout en bon, en s'écriant « Ah, oh, vous m'avez fait peur. Vous concevez d'entendre éternuer à cette heure? Qui diable ne s'effraierait pas? Il y a tant de bandits dans la capitale qui se cachent dans tous les recoins, des chourineurs, des rodins. » « Allons, me dis-je, le bonhomme a lu les mystères de Paris. » Il ne me laissait pas parler, ayant décroché sa lanterne et me la tenant sous le nez pour mieux me voir. « Ben oui, c'est bien vous, murmurait-il. Oui, oui, je vous reconnais. »« Mais que faites-vous donc, monsieur Bolivar ?» lui dis-je à la fin. « Oh, je m'amuse, dit-il, oui. Je m'amuse à répéter un rôle de polichinelle pour mon petit théâtre de société. J'ai choisi ce grenier qui me convient, où ne range personne. » « Monsieur Martin a bien voulu me le prêter. C'est un endroit propice à la chose. » Je vis qu'il était honteux de son état, et je lui dis « Oh, je vous croyais peintre, monsieur Bolivar. »« Oh, je le suis, ou plutôt je l'ai été, » s'écria-t-il, comme ravi de l'opinion avantageuse que j'avais eue de lui. « Oui, monsieur, mais ma vue s'étant affaiblie et les commandes devenant toujours plus rares, il a bien fallu chercher d'autres ressources. Eh, ma foi, fit-il, prenant son parti de tout avouer, comme il n'y a pas de sous-métier, mais seulement de soldat, j'ai profité d'un talent naturel que j'avais. Monsieur le préfet de police a bien voulu m'accorder une autorisation pour l'avenue des Champs-Élysées. Eh, mes affaires ne vont pas trop mal. Non, pas trop mal. Il faut des rôles, des scènes. On n'arrive pas du premier coup à la pratique de Bobino. Et pour faire un vrai polichinelle, un arlequin, un pierrot, il faut du mérite. » Ainsi parlait le pauvre diable, et je compris que cet homme avait occupé jadis une position plus heureuse, qu'il avait peut-être eu du talent et qu'il se trouvait humilié du métier de séraphin, son unique ressource. « Oh, certainement, certainement, monsieur Bolivar, lui dis-je, je n'ai jamais douté de l'art qu'il fallait dans votre partie. C'est en quelque sorte une dépendance de l'art dramatique. La grandeur de la scène ne signifie rien. Le décor est une invention moderne. De très grands génies tels que Shakespeare, Lope de Vega, Calderon et bien d'autres ont fait représenter leur chef-d'œuvre au fond d'une grange, d'une posada ou même dans une baraque de la foire, sans que personne n'ait jamais contesté leur mérite. » « C'est clair, dit-il aussi, je me fais honneur de ma profession. » Notre conversation durait depuis 5 minutes, et s'apercevant enfin que j'étais là, les pieds nus sur le plancher, il me dit « Ah, oh, vous avez quitté votre lit. » « Oui, monsieur Bolivar, la curiosité. » « Eh bien, fit-il, comme aujourd'hui dimanche, il y aura foule aux Champs-Élysées et que je tiens à faire sensation, vous me permettrez de poursuivre ma répétition. » Bon, oui, moi je vais me recoucher. Nous nous reverrons, bon voisin, dit-il, nous nous reverrons. » Je redescendis mon échelle, et comme je me remettais au lit, j'entendais déjà recommencer les éclats de rire du pauvre homme. C'était un être doux et bon, malgré ses grosses moustaches ébouriffées. Plus d'une fois, il m'était arrivé d'entendre le soir M. Bolivar, sa femme et sa fille, rentrer dans leur mansarde, causer entre eux. L'heure du quart étant ouverte, chacune de leurs paroles m'arrivait dans le silence. Et j'avais remarqué que la petite imposait toutes ses volontés au pauvre vieux qui ne pouvait rien lui refuser. Elle voulait un chapeau, elle voulait une robe, elle voulait des bottines. Sans doute, c'était tout naturel, étant jolie, d'aimer la parure. Mais les bonnes gens étaient si pauvres. La mère Jacqueline se permettait quelques objections, et la petite se mettait à pleurer. Aussitôt, le pauvre Bolivar s'attendrissait et s'écriait d'une voix chevrotante: Mon Dieu, ne pleure donc pas, Marguerite. Eh bien, oui, tu les auras, tes bottines et ta robe et ton chapeau. Sois donc raisonnable. Tu sais bien que nous n'avons pas fait grande recette dimanche dernier. Pour que tes bottines soient gentilles, il faudra bien y mettre 12 francs. Tu voudrais pas de grosses galoches, je pense. Tu veux être bien chaussée. Eh bien, il nous manque 3 francs. Allons, essuie tes larmes. Je te les promets, tes bottines. Et s'adressant à sa femme, il ajoutait d'un ton de reproche: Mais nous n'avons pas de cœur, non, nous n'avons pas de cœur. Cette pauvre enfant attend son chapeau depuis un mois. L'été sera passé avant qu'elle puisse le mettre. Oh, je ne suis pas contre le chapeau, répondait la bonne vieille. Ce que je t'en dis, c'est pour te rappeler que nous n'avons pas grand crédit au quartier. Allons, non, appelle pas cela. Nous avons bien assez d'autres ennuis. Marguerite aura ses bottines, elle les aura. S'il fait beau temps demain, nous aurons peut-être de la chance. Ces petites scènes d'intérieur m'avaient touché bien souvent, et mon grand désir de me rapprocher de Marguerite ne m'empêchait pas de comprendre que ça aurait été l'action la plus lâche, la plus indigne, de séduire l'enfant de ces malheureux, leur seul bien en ce monde. Je m'en sentais incapable, mais en attendant, je me disais: Bah, le bon vieux t'invite à venir le voir, qui jamais aurait pu te faire espérer une pareille aubaine. La petite t'aime, c'est positif. Tu peux déjà te considérer comme de la famille Bolivar. Et j'en étais attendri, plein d'un sentiment religieux, comme chaque tasse rêvant à Atala. Dans ces agréables pensées, je finis par m'endormir. Lorsque je m'éveillais, les voisins étaient déjà partis. L'idée me vint de courir aux Champs-Élysées pour applaudir mon nouvel ami, ce qui ne pouvait manquer de me concilier son estime. Mais la mère Jacqueline se serait certainement méfiée de quelque chose. Elle n'aurait pu croire que je venais là, conduit par le seul amour des marionnettes. Cette réflexion modéra mon ardeur, ce qui ne m'empêcha pas de partir pour les Champs-Élysées, aussitôt après déjeuner. Mais à mi-chemin, dans la cour du Carrousel, la prudence prenant le dessus, j'entrai faire un tour au musée de sculpture du Louvre et passer l'inspection des empereurs romains. Tibère, Néron, Domitien, les dignes fils de la Louve, et celle des philosophes grecs, dont la physionomie méditative n'eut pas la vertu de changer le cours de mes idées. Ils avaient beau froncer les sourcils, me recommander la sagesse, je me disais: Bon vieux farceur, on connaît votre histoire. Vous n'étiez pas si renfrogné chez les Laïs et les Phrynées de votre temps. Il vous est facile de vaincre vos passions maintenant que vous êtes de marbre. Monsieur Poirier lui-même aurait perdu son temps à vouloir me prêcher la vertu. J'allais, je venais le long des galeries du Louvre, puis dans celles du côté du Palais Royal, regardant aux vitrines les parures, les objets d'art, sans voir autre chose que Marguerite, me figurant toutes les satisfactions que j'aurais bientôt, parlant à sa personne, ad personam, comme disait le père Duranton. C'est à peine si je me souviens d'avoir dîné ce jour-là, tant mon esprit était aux choses spirituelles, éthérées, aux choses de l'âme. Les minutes pourtant me paraissaient bien longues, et vers 8 heures, je me retrouvais déjà dans ma chambre, la porte entr'ouverte sur le palier, guettant le retour de mes voisins. J'avais jugé que c'était là mon meilleur poste pour ne pas effaroucher la vieille Jacqueline, et à chaque instant je me disais: Allez, voilà, ce sont eux. Enfin, au bout de 2 grandes heures, ils parurent au bas de l'escalier. Je vis le grand Bolivar gravir lentement les marches à la lumière du gaz. Cette fois, c'était bien eux. Et rentrant dans ma chambre, le cœur tout agité, j'attendis leur arrivée au 5e. Puis, ouvrant ma porte comme par hasard, ma lumière à la main, je m'écriai d'un air étonné : « Tiens, c'est vous, monsieur Bolivar, vous voilà de retour ?» La mère Jacqueline, devant leur porte, son panier à terre, cherchait la clé de la mansarde avec impatience dans une de ses grandes poches. Elle ne semblait pas vouloir lier conversation avec moi. Et le vieux bonhomme, tout fatigué, s'épiquait sur l'épaule, me répondit d'un ton d'indifférence, sans même me regarder, « Ben oui, notre journée est finie. » Moi, je ne quittais pas des yeux la petite. Elle avait son chapeau de paille et ses bottines neuves. Jamais je ne l'avais vue aussi belle. J'avais remarqué qu'à mon apparition, elle était devenue toute pâle, et j'aurais voulu me précipiter à ses genoux. « J'espère que la journée a été bonne, » repris-je. « Vous êtes content, monsieur Bolivar ?»« Très bonne, oui, nous avons eu beau soleil, c'est ce qu'il faut. » Enfin, la mère Jacqueline, ayant trouvé sa clé, ouvrit, ramassa son panier précipitamment et entra. Monsieur Bolivar la suivit, et comme Marguerite passait, je lui touchai la main. Elle me regarda tout émue, et son regard me jeta dans le plus grand trouble. « Allons, Marguerite, allons !» criait la vieille de leur mansarde obscure. La petite entra et la porte se referma brusquement. Ainsi se termina cette journée mémorable. Je ne doutais plus de l'amour de Marguerite, et j'en rêvais toute la nuit, tantôt avec bonheur, tantôt avec une inquiétude indéfinissable, me demandant où cette passion me conduirait, et me rappelant les paroles du conducteur de diligence. Oh, j'en ai vu de ces innocents, ces ingénus, partir frais comme des chiens humains, et puis... Je me souvenais aussi d'une scène étrange qui s'était passée quelques mois avant chez le grand-père et qui me donnait à réfléchir. Un matin, nous étions dans le petit cabinet littéraire à causer comme d'habitude, lorsque vint à passer un personnage de Sainte-Suzanne, homme riche, bien posé, vivant grassement au premier hôtel de la ville, l'hôtel de la Cigogne, et ne se refusant aucune des jouissances de la vie. Et le grand-père m'avait dit, « Tiens, cet homme qui passe, le ventre arrondi et les oreilles pourpres, a plusieurs enfants en ville qui lui ressemblent d'une façon étonnante, de petits êtres en guenilles entretenus par leur mère pauvre. Il suffit de les voir pour se dire, ils sont de M. Attel, qui n'y pense pas et s'en moque. Et ce monsieur, chaudement vêtu en hiver, assis dans un petit salon à part au rez-de-chaussée, en face d'une table toujours somptueusement servie, dégustant les meilleurs vins, aspirant avec délice le fumet d'un perdreau qu'il découpe, voit par les hautes fenêtres couvertes de givre sa propre chair, toute rouge et golotante, qui dévore des yeux les mets succulents sur son assiette et qui crie « Un morceau de pain, mon bon monsieur !» Il semble ne rien entendre, il continue de manger du meilleur appétit. Et puis, sans faire sa digestion, il monte en voiture, couvert d'un bon manteau fourré, il touche le cheval du bout de son fouet et se met à rouler sur le velours, tandis que ses enfants, les pieds nus dans la neige, courent derrière la voiture en lui tendant leurs petites mains. Oh, il fait semblant de ne pas les connaître. Toute la ville le sait, l'on salue ce monsieur. On se fait d'honneur d'accepter ses invitations à dîner, car ce sont des dîners fins. » Ainsi parlait le grand-père d'une voix acerbe, mordante, en me regardant du coin de son œil noir. Et je frémissais. Je me disais qu'un être pareil méritait l'exécration du genre humain. Oh, il s'agissait maintenant de savoir si je voulais adopter la philosophie de ce monsieur. Le cas était fort simple. accepter l'amour de Marguerite, chanter, rire, danser avec elle, l'amener de temps en temps au palais royal, sans m'inquiéter des pauvres vieux, et puis m'en aller en vacances, en lui promettant de revenir, laissant, comme on dit, le soin à la société, tout ce qui pouvait en résulter. Car la société, chacun sait cela, est responsable de tout. Les individus ne sont coupables de rien. Les pauvres enfants qui n'ont pas de père, qui souffrent de la faim et qui deviennent des misérables, doivent s'en plaindre la société. Voilà donc ce que je pouvais faire, c'était fort commode. Et le monsieur de Sainte-Suzanne n'aurait pas agi autrement. Ou bien, je pouvais épouser la petite, renoncer à mes études, à mon avenir, et prendre ma charge le père Bolivar et la mère Jacqueline. Ayant toujours eu l'esprit assez net et ne chicanant jamais avec ma conscience, je me posais carrément l'alternative et je me disais « Ben, choisis !» Dans la décision où j'étais, j'aurais bien fait de déguerpir, d'aller me fixer ailleurs et de ne plus jouer du cornet à piston pour charmer mes voisins. Sans doute, mais cette idée de m'en aller me bouleversait les sens, je ne voulais pas. La pensée me venait qu'un autre profiterait de l'occasion, que la petite me considérerait comme un imbécile et qu'elle se donnerait par dépit au premier bon vivant qui se chargerait de la conduire à la chaumière. Un monsieur dans le genre de celui de Sainte-Suzanne, qui ne s'inquiéterait de rien et qui, même le cas échéant, n'en perdrait pas l'appétit. Après avoir si bien commencé, cette aventure prenait des teintes sombres. C'est une des plus mauvaises nuits que j'ai passées. Et le lendemain, m'éveillant vers les 9 heures, j'eus à peine le temps d'arriver au cours de droit civil. Le bon père Duranton, plein d'enthousiasme, expliquait justement le titre 7 de la paternité de la filiation. Il avait déjà prisé la moitié de sa tabiatière et répété plus de 20 fois avec une jubilation profonde que son opinion sur la matière faisait autorité à la cour de cassation. Je griffonnais quelques mots sur mon genou, mais j'avais l'esprit ailleurs. Heureux les imbéciles qui ne s'inquiètent jamais de l'avenir. Heureux aussi les gueux qui se débarrassent sur la société du fardeau de toute responsabilité, toujours contents d'eux-mêmes et que le monde respecte, honore, pourvu qu'ils aient de l'argent. M. Poirier aurait dit qu'ils vivent comme des animaux, que leur ami mortel en subit les conséquences. Mais comme ces gens ne croient pas à l'âme et qu'ils ont en général l'esprit très positif, les autres, à leurs yeux, jouent le rôle de dupes. Et non seulement ils jouissent de toutes les satisfactions de la vie, mais ils ont encore le bonheur suprême de se croire des esprits supérieurs à tous les préjugés vulgaires. Je ne rêvais plus que de Marguerite. Son image me suivait partout, au cou, au restaurant, à la promenade. Et quelques jours après notre rencontre, revenant un soir tout pensif de la bibliothèque Sainte-Geneviève, où j'allais rédiger mes notes, je la revis dans l'escalier, appuyée contre la rampe. Elle m'attendait peut-être, je n'en sais rien, mais nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. Elle sanglotait comme un enfant et je lui disais « Je t'aime ». Nous ne pouvions nous séparer quand un bruit se fit entendre dans leur mansarde. La mère Jacqueline disait « Marguerite ne revient pas. Va donc voir Bolivar. » Aussitôt, s'essuyant les yeux et les joues, elle descendit 2 étages en courant, et moi, j'entrai dans ma chambre plus amoureux que jamais. À partir de ce jour, chaque soir, à la même heure, nous nous rencontrions au même endroit, et nous causions tout bas de notre bonheur, car nous nous trouvions bien heureux. Cela durait depuis 1 semaine, lorsqu'un soir, je crus entendre un léger bruit au-dessus de nous. Ce bruit me fit tressaillir, je regardais. Le haut de l'escalier se perdait dans l'ombre. Il me sembla voir une figure se retirer de la rampe. Marguerite aussi regardait, mais nous ne vîmes plus rien. Le silence était absolu. Cependant, notre émotion avait été telle que nous nous séparâmes un instant. Elle rentra dans leur mansarde en me serrant la main, et moi je rentrai dans ma chambre. Je me couchai fort inquiet, soupçonnant le vieux guignol d'avoir surpris nos rendez-vous. Mais, comme tout se taisait chez mes voisins, au bout d'une heure, croyant m'être trompé, j'éteignis ma lumière et je ne tardais pas à m'endormir. Le lendemain, qui se trouvait être un dimanche, m'étant levé de bon matin, j'allais emboucher mon cornet à piston pour jouer l'air de Guido et Ginevra, que Marguerite affectionnait, quand deux petits coups retentirent à ma porte. Étonné d'une visite si matinale, je dis d'entrer, et M. Bolivar parut avec son grand chapeau, mais l'air si sérieux qu'il n'eut pas besoin de m'expliquer l'objet de sa visite. J'étais debout, machinalement je lui présentai une chaise. Et lui, sans faire attention à ce mouvement, me dit d'un ton grave qui m'émut profondément. « Monsieur, je suis un vieux peintre, ma réputation n'a jamais été bien grande, mais je crois me connaître assez en physionomie. En vous voyant pour la première fois, j'ai pensé que vous étiez un brave garçon et que vous seriez plus tard un honnête homme. Et quand j'ai su que vous faisiez votre droit, je me suis dit que vous ne seriez jamais de ces étudiants qui, après avoir passé leur jeunesse à séduire de pauvres jeunes filles, à leur faire perdre l'habitude du travail, de l'ordre, de la bonne conduite, vont ensuite, comme magistrats, s'asseoir dans un tribunal pour condamner sur la loi des voleuses, des infanticides et d'autres créatures perdues, sans penser à la cause de toutes ces misères et sans en prendre leur part de responsabilité. Voilà, monsieur, l'opinion que j'ai eue de vous. Est-ce que je me suis trompé ?» Il me regardait en face et sa figure avait pris un caractère de dignité qui m'étonnait. Je ne savais que répondre. « Si j'étais dans une position plus heureuse, reprit-il, j'aurais changé de quartier. Je ne serais pas venu vous voir, mais je ne peux pas partir en ce moment. Si vous êtes un honnête homme, vous savez ce que vous avez à faire. » Il me salua et sortit. 2 minutes après, je faisais ma malle. Oh, je ne vous dirai pas les cruelles réflexions qui me passaient par la tête. J'éprouvais un serrement de cœur terrible à quitter Marguerite, sans la revoir au moins une fois, et sans l'assurer de mon éternel amour. Oui, mais les paroles du vieux me paraissaient si justes. Je me serais cru si lâche de ne pas répondre par ma conduite à l'opinion qu'il avait de moi, que je n'hésitais pas une seconde à la justifier. Pendant que je pliais mes effets à la hâte, j'entendais mes voisins s'apprêter à partir comme d'habitude. « Allô, Marguerite !» disait la mère Jacqueline. « Dépêchons-nous, il est déjà tard !» Et les petites bottines s'éloignaient, trottinant dans l'escalier. J'écoutais tout pâle, une main sur mon cœur. Puis le dernier bruit s'étant perdu dans le lointain, je m'assis un instant pour reprendre courage. C'est pourtant un beau nom que celui d'honnête homme. Monsieur Bolivar m'aurait donné tout autre titre que je n'aurais pas obéi. Enfin, la malle faite, j'allais chercher un commissionnaire. Monsieur Martin, le voyant monter puis redescendre avec moi, mon bagage sur l'épaule, me demanda si quelque nouvelle imprévue me forçait de retourner au pays. Je lui répondis que oui, et mon compte étant réglé, il n'eut plus qu'à me souhaiter bon voyage. Le commissionnaire et moi, nous descendîmes la vieille rue des Grès, regardant aux affiches « Chambres garnies à louer ». Au bout de 20 minutes, nous montions l'escalier à rampe de fer d'une vieille maison de la rue de la Harpe, près des thermes de Julien, où je pris logement chez Madame Veuve Auburtin, au premier. Ma nouvelle chambre était mieux que l'autre, plus élevée, et ses deux fenêtres donnaient sur la rue. Je m'établis là, bien triste, avec la ferme résolution de ne plus revoir Marguerite, de ne plus songer à elle, mais son gracieux sourire ne pouvait me quitter. Il m'arrivait même, en allant à mes cours, de croire la reconnaître de loin, à sa taille, à son port de tête, à sa jolie chevelure. Aussitôt, mes jambes partaient toutes seules, et sans le vouloir, je courais pour la dépasser. Puis, reconnaissant mon erreur, je poursuivais mon chemin, la tête baissée, les yeux troubles. Je ne l'ai jamais revue. Vous connaissez maintenant mon premier amour. Je me le rappelle toujours avec attendrissement. Ce serait peut-être le souvenir le plus triste de ma vie, si je n'avais pas fait alors mon devoir d'honnête homme. Et, pour le dire en passant, c'est à mon excellent grand-père que je dois de n'avoir aucun remords sur la conscience. C'est son histoire touchante et terrible du monsieur de Sainte-Suzanne qui me donna la force et le courage de briser des liens qui me tenaient au cœur et qui saignèrent longtemps après le devoir accompli. Heureux ceux qui ne trouvent dans leur famille que de bons exemples et des conseils vertueux.